jusqu'à 9h. Good morning business.
J'ai donc rejoint Renaud Heiss, le cofondateur de Exotech. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir parce qu'on parle beaucoup de vous, hein, notamment à l'antenne de BFM Business. On vous a notamment donné un BFM Award pour la révélation de l'année. Et donc on voulait venir voir sur place. Et je suis pas déçu. Parce que ce mélange à la fois d'esprit start-up et d'entreprise industrielle, on le voit derrière nous avec les ateliers de montage des robots, est assez bluffant. En fait, c'est assez rare de voir ce mélange-là. Ça veut dire que la French Tech, ça y est, investit le domaine industriel.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et effectivement, c'est une grande fierté de vous recevoir. Merci d'être venu. On est ici à Lille, dans le nord de la France, où on est à Croix.
Ouais.
Effectivement, on est sur le métro de Lille. On est vraiment pas très loin. Où on a à la fois nos bureaux R&D, nos headquarters qui est ici, et en même temps notre zone de production, parce que quand on fait du hardware, on peut pas grandir sans cette dimension industrielle.
Alors donc vous fabriquez des robots qui vont permettre notamment aux logisticiens, aux entrepôts de stocker notamment de manière verticale jusqu'à 12 mètres je crois, on va les voir. Et ça commence effectivement là avec la réception des pièces détachées. Déjà elles viennent d'où en général les pièces détachées ?
Nos fournisseurs, ce qu'on dit de rang 1, c'est-à-dire nos premiers fournisseurs, sont globalement en Europe. Après, d'accord, on va avoir des fournisseurs de rang 2 qui viendront du monde entier. Mais tous nos composants vont être en France, on a des choses en Belgique, on a des moteurs en Espagne, on a des batteries à différents endroits, etc. Donc ça va venir globalement d'Europe. Pour faire un robot, c'est environ 1000 pièces qui vont arriver, 250 références. Et au total, ça va prendre environ 16 heures. Donc 16 heures sur les différentes étapes qu'on voit là tout autour de nous. La première, c'est le stockage des composants. Et donc on stocke les composants dans un système Skypod, dans notre propre système, puisqu'on a confiance. Et ensuite, on lance l'assemblage qui est juste derrière nous des différentes sous-parties. Une fois que toutes les sous-parties sont prêtes, on arrive ici pour l'assemblage complet, le test et l'expédition.
Et alors donc, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais là vous venez d'afficher le 4000e robot d'Exotech. Je ne sais pas si vous avez arrêté les compteurs ce matin ou hier. En tout cas, c'est une belle occasion de venir vous voir. 4000 robots, en combien de temps vous avez fabriqué 1000 robots ? Combien d'années ?
Donc on a lancé l'entreprise fin 2015, mais les premiers robots c'est 2017. Donc ouais, en 5 ans, on a fait ces 4000 robots avec une croissance exponentielle à peu près deux fois plus chaque année. Donc sur les 4000, il doit y en avoir à peu près 2000 qui ont été faits cette année.
C'est-à-dire que quand vous êtes passé de 2000 à 3000, il vous a fallu 9 mois. Et là pour passer de 3000 à 4000, j'ai calculé, il vous a fallu 6 mois seulement.
Effectivement, ça varie assez fort. Alors ça varie au rythme bien sûr des projets de nos clients, mais ça varie aussi avec une croissance qui est forte, avec une traction notamment de plus en plus de projets au Japon, aux États-Unis et sur le reste de l'Europe.
Alors juste un mot quand même sur l'esprit start-up d'Exotech, qui est quand même une industrie. D'abord, c'est de voir les photos. Alors j'ai appris que vous disiez les exo-people. Il y a combien d'exo-people aujourd'hui ?
Effectivement, on a pas mal de vocabulaire interne et les exo-people en font partie. Actuellement, on est 600, donc on était 300 début d'année. Donc il y a 300 personnes qui nous ont rejoints sur toutes les géographies, sur tous les postes, parce que c'est, on va dire, la beauté d'une entreprise industrielle, c'est qu'il n'y a pas un type de population. On a des gens en production, on a des gens en projet chez nos clients, on a des gens en vente, on a des gens en R&D, des gens en logiciel, etc. Donc c'est toutes ces populations qui ont grandi, je dirais, un petit peu en même temps.
Et puis vous avez l'esprit potache, on voit que le hangar, là, enfin le panneau s'appelle R2D2 et qu'il y a un Mini robot, juste là. Vous donnez des petits noms aux robots aussi.
Oui, alors tous nos robots, depuis le début, ont un nom, un peu de la même façon qu'un téléphone, etc., ou un numéro de série, mais la plupart du temps, c'est un truc illisible, très compliqué, à 13 chiffres. Nous, c'est toujours consonne-voyelle, ce qui permet d'identifier chaque robot. Et alors, on s'en sert aussi même pour les salles de réunion, etc., d'autres éléments, pour les identifier de façon prononçable.
Allez, on continue, on va aller jouer avec les robots. Renaud, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, il déjouait au Lego ou au mécano quand il était petit. Parce que là, c'est grandeur nature. C'est une vraie question, en fait. Vous jouiez.
Oui. Fan de tout ce qui pouvait se construire, tout ce qui pouvait se toucher. D'abord, on va dire sur la partie assemblage et assez rapidement sur le fait de rajouter du logiciel au-dessus, d'avoir des robots, c'est-à-dire une machine bien faite, mais une machine qui est capable en autonomie de faire des tâches, de faire des jeux au début, mais ensuite de faire des tâches en arrivant à mes premiers boulots.
Voilà. Et là, on arrive là, c'est-à-dire c'est là où c'est le parc de test des robots Exotech, c'est ça ?
Absolument. C'est la grande partie du business model, c'est d'avoir, on appelle ça easy to deploy en anglais, mais facile à déployer. Donc avoir des robots qui ont été testés ici, qui ont été validés ici, on les envoie faire 400 missions derrière nous. Ils doivent faire 400 missions avec zéro erreur. Si c'est ça, ils sont mis en carton, ils sont prêts à être envoyés sur un site pour que sur un site, les opérations se passent très vite.
Alors ce qui est absolument fascinant, on va voir ça dans un instant, c'est qu'ensuite les robots, vous les lâchez plus, vous les tracez tout au long de leur vie. On va aller à la salle de contrôle. Alors Renaud Heiss, pour moi c'est une révélation en venant vous voir ici, c'est cette salle de contrôle où vos 4000 robots, vous allez les suivre tout au long de leur vie, c'est-à-dire que là chaque petit point lumineux c'est un de vos robots en action chez un de vos clients.
Effectivement, tous nos robots, tous nos sites, tous nos clients sont connectés en temps réel à ce contrôle center où on va être capable de les aider sur n'importe quoi qui arrive. Ils peuvent nous appeler et dans ces cas-là, ils vont avoir du support. Mais on monitore de façon active et s'il y a un robot qui s'arrête parce qu'il y a un obstacle devant, on va même avant, la plupart du temps, que le client s'en rende compte, le voir ici et être capable d'intervenir.
Ça, c'est incroyable. Et ça veut dire que quelque part, pardon, mais il n'y a pas un problème de confidentialité de ce que les clients font de vos robots, de l'operating process, etc.
Alors, ce qui est partagé ici, c'est seulement, on va dire, la partie robotique. C'est-à-dire, toutes les données logistiques restent sur le site du client et sont la propriété du client. Ici, vous ne verrez jamais passer un numéro d'article, des numéros de commande, etc. Ce qu'on voit, c'est la partie robotique, la partie exécution. Et je pense que les clients sont contents parce que ça participe à notre engagement en performance. Quand on vend un système, on le vend sur une certaine performance. Ça va être quelques milliers de bacs par heure, par exemple. Et on est capable, grâce à ce genre de système, de vérifier qu'on l'atteint et de tout faire pour accompagner nos clients à atteindre cette performance.
Cette visite, elle est fascinante parce qu'elle permet de comprendre pourquoi vous avez levé 300 millions, plus de 300 millions d'euros, pourquoi vous êtes valorisé 2 milliards d'euros et que vous êtes la première licorne française industrielle. Parce que c'est dès que le début, en fait. D'abord, on a vu l'accélération du rythme de production. Vous allez aux États-Unis maintenant, Atlanta, au Japon aussi, qui est un marché cible. Il n'y a pas de concurrent d'Exotech qui fait la même chose dans le monde ?
Alors qu'ils fassent la même chose, non. Il y a des entreprises plus traditionnelles qui vont faire des solutions en logistique, qui vont être basées sur des technologies plus anciennes. Donc ça va être du convoyeur, des ascenseurs. C'est des choses où quand on les agence, on est capable de faire de la productivité, mais ça va être des sortes de cathédrales d'acier assez figées. Ouais. Ce qu'on va apporter avec des robots, c'est la flexibilité. Un robot, on l'a vu, on est capable d'en rajouter, on est capable de les enlever, on est capable de les monitorer, on peut même les louer pour tenir des périodes de pic. Et ça, les anciennes technologies seraient pas du tout capables de les proposer. Et le e-commerce, qui sont nos clients numéro un, sont des gens qui ont besoin de cette flexibilité. C'est pour ça qu'on grandit si vite.
Vous avez recruté 300 personnes cette année. Vous envisagez de recruter combien ? 500 ingénieurs d'ici 2025 ?
Alors, juste sur la partie R&D, effectivement, ça fait 500 ingénieurs. Mais au total, l'année prochaine, c'est 600 personnes en tout. Et ça fera plus de 1000 personnes là, dans les années qui viennent.
C'est génial. Et vous arrivez à trouver toutes ces compétences et tous ces talents sur le bassin d'emploi ici ?
Alors, on se déploie à l'international. Donc, c'est pas que des personnes ici. Mais oui, on arrive à recruter à Lille tous les métiers dont on a besoin. La R&D est située juste là-bas à ma droite. La production est ici. Ici, on a les équipes de maintenance. Donc, oui, on arrive à recruter.
Merci beaucoup, Renaud Reiss, pour cette visite d'Exotech.
Merci d'être venu nous voir.